Radio Campus 88.3, à la manière d'un livre que l'on feuillette à chaque fois. Ben on tourne une page et on passe à une nouvelle émission. Salut Jamel, c'était donc les jeunes de l'Azel Club Lossière qui sont venus nous rendre visite tout à l'heure. C'est toujours un plaisir d'avoir des jeunes sur notre antenne. Ben oui, parce qu'on est une radio jeune, hein. Radio Campus, c'est la radio des jeunes. D'ailleurs, c'est probablement la meilleure idée que vous ayez eue depuis très longtemps d'avoir allumé votre poste sur le 88.3, une fois de plus. Hein. Soyez-en félicités. Vos amis vous dites que vous êtes fun, dans le vent, à la page. Eh ben, expliquez-leur que vous écoutez Radio Campus. Un peu de démagogie et d'autopromotion ne fait pas de mal. Il faut être fier de ce que l'on est, hein, pas vrai les jeunes? Vous êtes fiers de ce que vous êtes?
Oui.
Hein?
Tout dépend.
Bah oui, bah ouais, bah oui. Allez, Mister Livre, ça commence maintenant, c'est pas compliqué, le principe, j'énonce les règles, vous énoncez les règles, Marc? T'énonces les règles, alors comment ça se passe, Mister Livre?
En gros, Mister Livre, c'est on présente des livres, et on présente la résumé, et les jurys doivent... voter pour le meilleur livre. C'est comme les Miss France, mais en version livre.
Voilà. Le jury, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Est-ce que vous êtes en forme?
Oui.
Alors, ça va commencer. Allez, eh bien, je crois que c'est Thibaut qui commence.
C'est Nino.
C'est Nino. Nino, c'est à toi, tu as une minute.
C'est parti.
Bonjour, je vais vous présenter un livre de Samouis Didier qui s'appelle « Le dernier hiver ». Je vais vous lire le résumé, après je vais vous donner mon avis. Dès la mort de Spring, déesse et créatrice des Pandyr et des autres créatures de Midgard, l'île est attaquée par des géants de feu et de glace sans pitié, venus d'autres contrées. Les 8 clans doivent unir leurs forces pour défendre leur territoire, mené par les aînés des Pandyr. Les clans doivent se diriger vers Aesmir, Pix, pour une dernière confrontation. Alors que l'hiver envahit Midgard, les Pandyr vont devoir dépasser leurs préjugés pour espérer vaincre Lord Winter et le roi Semir. Écrit et illustré par Samouis Didier, directeur artistique de Blizzard. Mon avis, j'ai tout de suite attiré par le résumé, mais aussi et surtout par la mention fantastique.
Stop. Ah oui, c'est rapide.
Merci à toi, Nino. Oui. C'était donc le premier livre dont rappelle-moi le titre, s'il te plaît.
Le dernier hiver.
Le dernier hiver. On poursuit avec un deuxième candidat. C'est qui prend la suite, alors? Allez, Thibaut. Thibaut, c'est à toi.
Alors, bonjour. Je vais vous présenter, pour ce Mister Livre, je vais vous présenter un livre de Rainbow Rowell, donc Eleanor et Park. C'est une histoire d'amour magnifique, parue en 2012. Ce livre raconte l'histoire que vivent Eleanor et Park. Eleanor est une jeune fille nouvelle à son lycée, où va Park. Elle est rousse. Park est un jeune homme solitaire et calme. L'histoire se passe aux États-Unis en 1986. Donc, je vais vous lire un petit résumé de cette histoire. Donc, Eleanor est nouvelle. Elle doit donc choisir une place dans le bus. Donc, elle va garder ça toute l'année. Elle s'assoit à côté de Park, mais Park l'ignore. Mais leur passion commune pour les comics va les rapprocher. Vous vous demandez comment? Vous le saurez en lisant ce livre. Franchement, ce livre, j'ai adoré. C'est très beau, très poétique. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après l'émission. Et surtout, votez pour moi. Merci.
Pas pour toi, mais pour Eleanor et Park.
Oui.
D'accord, pour le livre. Allez, oui. On poursuit avec une troisième œuvre qui va nous être présentée par Marie. Marie, c'est à toi.
Bonjour, je vais vous présenter Un grand-père tombé du ciel, écrit par Yoel Lassane. Fille unique, je vivais seule entre papa ingénieur et maman secrétaire. Nous étions seuls, tous les trois, sans famille, ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine, ni grands-parents. Amis, cousins, peu m'importait. Mais une sœur douce, grand-père, se demanda un jour, Lee, car elle venait d'apprendre son existence. Il vient des États-Unis, plus précisément de New York. C'est là que va débuter un roman historique après la Deuxième Guerre mondiale. Entre un grand-père et sa fille, ensemble, ils vont apprendre à s'apprivoiser. Lee découvre les secrets de son grand-père. Merci de m'avoir écouté. Votez pour Un grand-père tombé du ciel.
Prochain livre, c'est Marc. C'est à toi, Marc.
Du coup, je vais vous présenter La noirceur des couleurs de Martin Balsacco. C'est l'histoire de 5 bébés enlevés pour un projet expérimental diabolique consigné dans un journal intime. Du coup, il y aura deux points de vue, celui d'un journaliste qui enquête sur cette disparition 25 ans plus tard et sur le journal du projet expérimental. En 1910, à Bruno Herz, une jeune femme réapparaît de son domicile de ses parents, disparue 25 ans avant, et qui est belle et amnésique. Et en même temps, il y a un jeune homme qui se comporte comme un chien. Et les images hallucinent d'une session inoptique des pistes qui conduit Anjo, le journaliste, à remonter le fil de l'histoire. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'à où peut-on aller au nom de la science ? Du coup, j'ai bien aimé pour l'histoire et aussi pour se poser cette question qui est au nom de la science, mais jusqu'à où est-ce qu'on pourrait aller et les limites ? Du coup, voter pour la noirceur des couleurs.
D'accord, un livre en lien avec toutes les idées d'éthique, enfin les thèmes de l'éthique tels qu'on peut les entendre aujourd'hui, voilà. On poursuit avec Ilham.
Liam.
Non, excusez-moi. Je prononce mal son prénom. Ilham.
Liam.
Oui. Liam, L-I-A-M. D'accord, je suis un peu sourdingue, hein, c'est la radio à force, voilà. Vas-y, Liam.
Je vais vous présenter La sirène et la licorne de Erin Mosta. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily et qui va partir de chez elle pour aller vivre chez sa tante.
Les sirènes.
Et elle va découvrir les secrets de sa tante, puis elle va rencontrer Chris, qui est une jeune fille qui habite pas loin de chez sa tante. Elles vont ensuite vivre beaucoup de choses ensemble et il va se passer une histoire d'amour entre elles deux qui sera comme une histoire d'amour qui serait entre deux personnes de sexe opposé. J'ai trouvé ce livre très intéressant par les sujets abordés et aussi la manière d'écrire qui est très poétique, émouvante et les descriptions qui sont magnifiques.
Merci Liam. On poursuit avec Garance. Allez Garance, c'est à toi.
Alors bonjour, je vais vous présenter un livre qui a été écrit par Hergy Palacio. Donc ce livre, il s'appelle Wonder. Wonder, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Auguste, mais on le surnomme Oggy Doggy. Et en fait, il a une malformation faciale. Et pour la première fois, à 10 ans, il va entrer en 6e et il n'a jamais été à l'école. Et du coup, bah, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que ça parle de l'acceptation de soi, de quelqu'un de différent par les autres. Et en fait, Auguste, il se sent ordinaire, sauf que bah, les autres, à cause de son visage, ils ont l'impression que bah, il n'est pas normal, qu'il a un problème. Donc, on va voir sa vie et puis son évolution à l'école. Et il y aura beaucoup de bas, mais à la fin, il y aura des hauts pour Auguste. Et on va également voir comment sa sœur Olivia, alias Via, va parler des autres d'Auguste, parce qu'elle en a un peu honte, mais elle n'ose pas se l'avouer. Donc voilà. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est un livre qui est drôle et sensible.
Merci Garance. Et on termine avec...
Alors moi, c'est Lucie et je vais vous présenter Joan Cabal, le nécromancien de Jonathan L. Howard. Avec donc le personnage de Joan Cabal, qui est un nécromancien talentueux et qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à son métier. Et en échange de secrets occultes, il a vendu son âme au diable. Sauf qu'il se rend compte que l'absence d'âme pose certains problèmes lors de ses travaux. Et il décide donc tout simplement d'aller la reprendre. Et le diable, qui manque d'occasion de s'amuser, va lui permettre de la récupérer s'il paie le prix d'une âme au centuple, soit en allant voler sans autres âmes sur Terre. Et pour ça, il a le droit à avoir une foire hantée. Et un coup de main de son grand frère Hans, qui est un vampire assez fier de ses principes et qui désapprouve totalement la morale de son frère et qui risque de lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. Donc c'est un livre extrêmement drôle, contrairement à ce qui peut paraître. Et si vous avez aimé des auteurs comme Terry Pratchett ou Ray Bradbury, c'est le livre qu'il vous faut.
Merci Lucille. Donc c'était Le Nécromancien. Le jury, vous êtes toujours là ?
Oui.
Je suis un peu sourd, je vous l'ai dit. Le jury, vous êtes toujours là ?
Oui.
D'accord. Eh bien, il va vous falloir choisir. Eh oui, il va falloir choisir entre ces 7 œuvres. C'est cette œuvre. Je sais pas pourquoi je rajoute des... Hein, voilà. C'est cette œuvre. Donc, Le Dernier Hiver qui nous a été proposé par Nino, Éléonore et Parc qui nous a été proposé par Thibault, Un grand-père tombé du ciel qui nous a été proposé par Marie, La noirceur des couleurs qui nous a été proposé par Marc, La sirène à la licorne qui nous a été proposé par Liam, Wonder qui nous a été proposé par Garance et Le nécromancien qui nous a été proposé par Lucille. Moi, combien c'est de... Lucie.
Oui. Et c'est Joanne Cabal, le nécromancien. C'est tout le livre. Enfin, le titre.
Joanne Cabal, le nécromancien. Voilà. Autant pour et moi, Lucie.
Voilà.
Alors, combien de voix pour Le Dernier Hiver ? Levez la main. C'était le premier livre qui nous a été proposé par Nino. Combien de votes pour Le Dernier Hiver ? 0 vote. Nino, il est où, Nino ?
Il
n'est
pas là, il est en atelier.
Oh, puis il est parti en atelier. Tant pis, j'ai un ticket pour lui, vous viendrez. Parce que tout le monde, tous les participants auront un ticket. Éléonore et Parc, qui nous a été proposé par Thibault. Combien de voix ? Une voix. Ah, vous votez, vous aussi, les participants ?
Moi,
non.
Je sais pas, tant qu'à faire.
Non. Allez, une voix, deux voix à ma gauche. Combien de voix à ma droite ? Deux voix, d'accord. Deux voix pour Éléonore et Parc. Pardon. Un grand-père tombé du ciel. Combien de voix pour Un grand-père tombé du ciel qui nous a été proposé par Marie ? Un grand-père tombé du ciel. Si, une voix, voilà. Une voix là-bas à ma droite. Ah, toi aussi ? Non, d'accord. On poursuit avec La noirceur des couleurs qui nous a été proposée par Marc. Combien de voix ? La noirceur des couleurs ? Aucun point, mais le jury, vous avez voté pour qui ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir plein de voix. Levez la main, le jury, vous êtes combien là, tous ceux qui participent ? Hein, d'accord, vous êtes très nombreux, très bien. On poursuit avec La sirène et la licorne qui nous a été proposée par Liam. Qui vote pour La sirène et la licorne ? Une voix, deux voix pour La sirène, trois voix pour La sirène et la licorne. La noirceur des couleurs, il y avait 0 voix. La noirceur des couleurs, 0 voix. Wonder, qui nous a été proposé par Garance, a 1, 2. Levez la main bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouh là là, je crois que c'est sans appel. J'aimerais bien que quelqu'un qui vérifie, c'est ça. 12. D'accord, 11. 11 voix pour Wonder, proposé par Garance. Et il nous reste Joanne Cabal, le nécromancien, qui nous a été proposé par Lucie. Combien de voix ? Une voix. Ok. Deux voix. Deux voix. Donc, c'est sans appel. Tu nous as convaincus. Tu peux nous le relire, du coup ? Nous refaire ton Mister Livre, la présentation. 1, 2, 3. Vas-y. Dans le micro.
Bah alors, c'est Wonder. Donc, je vous fais un résumé. Donc, plus détaillé, donc c'est Auguste. Ses parents, en fait, ils réfléchissent à l'inscrire à l'école pour la première fois en 6e. Et lui, il a un peu peur et son père n'est pas trop d'accord parce qu'il dit que c'est comme un agneau qui va aller à l'abattoir. Et en fait, finalement, Auguste, il va y aller parce que le proviseur est vraiment très gentil et fait des blagues. Et donc, il va être accueilli par des élèves, 3 élèves, avec qui il va plutôt bien s'entendre de 2 personnes, mais il y a une personne avec qui il ne va pas s'entendre et ça va devenir son ennemi. Et donc, toute l'histoire, il va être avec un ami très proche, sauf qu'un jour, à Halloween, va se passer quelque chose de triste entre les 2 amis. Puis, on va voir comment ils vont réussir à se réconcilier, et puis, je ne vous dis pas la fin, parce que sinon...
Tu ne vas pas divulgâcher, quand même. Merci à toi, Garance. Félicitations. Regarde, je te donne 2 tickets supplémentaires de plus que tes camarades, voilà, pour aller... acheter des livres, bien évidemment. Moi, j'aimerais bien, parmi ceux qui ont voté pour Wonder, qui nous a été proposé par Garance, qui vient nous expliquer pourquoi elle vous a convaincu. Oui, vas-y, dans le micro, le micro bleu. Pourquoi est-ce que tu as voté pour Wonder ?
J'ai voté Wonder parce que c'est une histoire triste et que personne vit tous les jours, enfin, pour l'instant, et qu'elle est bien, enfin, j'espère... Je vais le lire, peut-être. Et j'espère qu'il va me convaincre.
D'accord. Merci. Tu t'appelles comment ?
Wissal.
Merci, Wissal. Eh bien, ce Mister Livre est terminé. Merci à tous de vos propositions, de vos prescriptions littéraires, hein, puisqu'il y a même des ordonnances littéraires sur le festival. Là, c'était une prescription littéraire. Félicitations encore une fois pour ton choix, Garance, pour Wonder. Wonder, de l'auteur. Tu peux nous rappeler le nom de l'auteur, s'il te plaît ?
R.J. Palacio.
R.J. Palacio, voilà, Wonder de R.J. Palacio. Vous restez toujours branchés sur Radio Campus 80.3. Notre invité Christophe Cointeau est arrivé. Thibaut, Marc, vous ne partez pas parce que je crois que c'est vous qui deviez faire son interview. On va presque sans enchaînement enchaîner l'interview de monsieur Christophe Cointeau qui va venir se placer derrière un micro. Pendant ce temps-là, moi j'en profite pour remercier tous les membres du jury. Vous avez été formidables! Et est-ce que vous êtes prêts? Attends, viens me voir, jeune fille. Est-ce que vous êtes prêts pour votre interview, Thibaut, Marc,
moi, ça
Christophe
va.
Cointeau, vous pouvez peut-être nous le présenter en quelques mots. Allez, c'est parti, les garçons.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter avec d'une manière différente. On ne va pas faire comme tous les autres personnes qui vont vous interviewer. On va vous demander de faire un portrait chinois.
D'accord. Du coup, si vous étiez un livre, vous serez lequel? Ou un manga? Pourquoi?
Bah, parce que c'est ma base.
Ouh là là, attendez, excusez-moi. Allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter d'une manière différente, pas comme toutes les autres personnes qui vont vous interviewer. On va vous faire un portrait chinois.
Très bien.
Du coup, si vous étiez un livre, lequel?
Dragon Ball.
Pourquoi?
Alors, parce que c'est ma base, en fait. Voilà, tout simplement. C'est par là que j'ai découvert le manga comme des millions de gamins des années 90. Et puis, c'est universel, intemporel. C'est toujours frais, toujours cool. Donc voilà, je ne m'en lasse pas.
Comme beaucoup de gens. Si vous aviez un objet du quotidien, si vous étiez?
Alors, j'hésite entre un stylo ou une plume. J'irais peut-être quand même plus la plume, une plume avec de l'encre de Chine.
Et si vous étiez une couleur?
Une couleur? Jaune.
D'accord. Très bien, du coup, maintenant on va passer aux questions pour avoir un peu de temps.
Ok.
Alors, comment vous est venue l'idée de faire un manga?
Ça ne m'est pas venu d'un coup, en fait. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin, donc voilà, c'est un rêve de gosse, voilà, tout simplement.
Pourquoi ces prénoms assez bizarres, hors du commun?
Alors, quel prénom?
La plupart des prénoms que vous donnez, par exemple, Baka, Pasta, Pacha, je crois, Pacha. Les fils de...
Oui, c'est des noms de pâtisserie russe, ça, en fait, voilà. Il y a toujours une logique, en fait, dans les noms. Pour moi, il me faut deux critères. Il faut que le nom sonne bien et en même temps qu'il ait une logique. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment farfouiller un petit peu, chercher les significations des noms. Mais voilà, il y a toujours une logique. Donc après... Je ne sais pas si ça paraît bizarre ou pas, mais j'essaye toujours de rechercher à la fois le nom qui sonne bien et qui est logique par rapport au personnage, qui veut dire quelque chose.
D'accord. Et pourquoi l'objectif du héros principal est assez basique? On a One Piece, c'est à peu près le même, Naruto.
Parce qu'en fait, quand on fait du shonen, c'est-à-dire un récit d'action-aventure, manga d'action-aventure, il y a certains... critères à respecter pour que l'histoire tienne bien debout, et notamment il faut qu'il y ait un but simple à accomplir. Mais en même temps, c'est pas que dans le shonen. Si tu regardes bien dans Star Wars, le but de Luke Skywalker c'est de sauver la princesse de l'Empire Maléfique, tu vois. C'est comme un conte de fées finalement. C'est toujours le but, c'est de battre le méchant et de sauver les valeurs positives. Voilà, tu regardes les super-héros américains, Spider-Man, Batman, leur but c'est de défendre leur ville contre les criminels. Donc les buts sont toujours très simples. Il faut que le but soit simple pour que l'histoire soit efficace et compréhensible.
D'accord.
Est-ce que vous avez pris des cours de dessin?
Non. J'ai fait un an au Beaux-Arts d'Angoulême il y a très longtemps, après le lycée. Et puis après, ça m'a pas servi à grand-chose. Et après, c'est surtout de la pratique personnelle. Donc voilà, à force de dessiner, on s'améliore.
Et comment Glénat vous a recruté et vous a vu? Parce que
c'est moi qui leur ai pas pris de cours. C'est moi qui leur ai... Ah, ça, les éditeurs s'en fichent de savoir si tu as des diplômes ou pas. Et heureusement.
Oui.
Ce qui compte, c'est le projet que tu leur envoies. En fait, moi, ils m'ont recruté, entre guillemets, parce que je leur ai envoyé un dossier éditorial. Donc c'est un dossier dans lequel tu présentes ton histoire, en fait. Tu présentes brièvement, en quelques mots, ton histoire. Donc ça s'appelle un synopsis, quand tu résumes en 2-3 phrases, après la présentation des personnages, et puis quelques pages finies. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux être édité, il faut envoyer un dossier éditorial qui présente ton titre, ton projet, et il faut être efficace, et puis après, on en discute, et puis après, on signe un contrat, on fait les pages, et le livre sort. Voilà.
Et vous avez essayé plusieurs d'autres maisons d'édition, ou que Glénat ?
Que Glénat, parce que c'est... Ils avaient les publications qui m'intéressaient, on a parlé de Dragon Ball tout à l'heure, One Piece, voilà, c'est vraiment mon ADN, quoi. C'est vraiment ce que je suis et ce que j'aime, donc c'est pour ça que je suis allé vers eux, parce qu'ils ont les publications qui me plaisent. Donc je pense qu'il y avait une logique et que je me sentirais bien dans leur catalogue, et ma foi c'est le cas, donc c'est cool.
Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui débutent le manga ?
Déjà il faut vraiment aimer dessiner. Mais vraiment, vraiment, parce que c'est une discipline quotidienne, en fait. C'est pas juste faire un beau dessin et puis voilà. C'est vraiment aimer passer du temps à dessiner et aimer raconter des histoires, surtout. Voilà, aimer raconter des histoires, aimer s'amuser, avoir des choses à dire, les dire à sa manière. Et puis, faut être prêt à progresser aussi tout le temps, à se remettre en question. Et c'est un peu comme voilà, le shonen, tu vois, tu pars de très bas et puis il va falloir affronter les difficultés et puis... pour arriver à atteindre tes objectifs. Ben là, c'est le même principe, il faut être toujours persévérant, toujours positif pour avancer.
Mais du coup, vous faites comment pour avoir des beaux yeux ? Parce que la plupart du temps, quand on fait un dessin manga, j'ai remarqué ça, le premier œil, ça passe, mais le deuxième, après, il est tout moche.
C'est super dur. Il n'y a pas une formule précise, hein. C'est à force d'en faire. C'est quelque chose que j'essaie de travailler au quotidien et de plus en plus. Tu vois, là, je bosse sur un nouveau manga et je vais essayer encore d'améliorer les regards de mes personnages, parce que le regard, c'est la première chose qu'on voit en fait quand on regarde une image. Et si ton regard est moche, est foiré, bah, tout le reste est foiré. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc il faut vraiment que les yeux soient beaux. Pour qu'ils soient beaux, il faut qu'ils expriment quelque chose. Et ça passe par des... C'est vraiment une question de millimètres, quoi. Tu vois, c'est selon la taille des pupilles, selon la taille de l'écartement des yeux, la grandeur. Est-ce que tu vas faire une petite pupille noire ou une grande pupille avec de l'iris tout autour, des reflets de lumière pour rendre plus mignon ? Enfin, il y a des possibilités infinies, donc je ne peux pas te donner une réponse précise à cette question. C'est juste qu'il faut, il faut essayer. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de plus dur, par exemple, que de faire un visage de face où il faut respecter une symétrie parfaite, notamment entre les deux yeux. C'est quasiment impossible à faire, donc... Donc tu vois, on galère tout le temps, mais on essaye de faire au mieux.
Vous avez dit que vous travaillez sur un nouveau manga, mais du coup, Tintaren va bientôt s'arrêter. Vous allez faire les deux en même temps ?
Alors, Tintaren vient de se terminer en 4 tomes. Le quatrième est sorti au mois de juin, voilà, donc tu es à la fin. Alors, c'est pas la vraie fin que j'aurais espérée, mais c'est une fin de cycle au final. Et là, je renchaîne sur un nouveau manga qui s'appelle Wind Fighters, que j'ai signé très récemment. Donc, c'est officiel, j'ai fait l'annonce l'autre jour sur mes réseaux. Donc, normalement, pour une sortie en avril 2020. Voilà.
Et pourquoi vous avez dit que c'est pas la fin que vous auriez espéré ? On vous a arrêté ou...
Exactement. Ouais, c'est
pour cause de vente ?
Ouais, bah, globalement, c'est toujours ça le nerf de la guerre. Hein. C'est, si tu fais beaucoup de ventes, tu peux aller très loin. Et si tu en fais moins que prévu, bah, faut arrêter pour repartir sur quelque chose de plus efficace. Donc, mais je suis pas mécontent au final. Même si c'est une fin un peu précipitée, tu vois, le tome 4, j'en suis heureux. Et puis, je suis très heureux aussi, surtout, de démarrer une nouvelle aventure avec de nouveaux personnages, nouveaux titres. Donc voilà, il faut savoir, je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir se remettre en question pour avancer toujours de manière positive. Parce que le monde de l'édition est un monde assez difficile. Mais si on a des choses à raconter, il faut y aller, quoi. Il faut avancer.
Sur quoi vous dessinez ? Ordinateur, papier, tablette graphique ?
Papier. Papier,
et après, ouais, vous scannez ouais. Ou
après, j'emmène mes planches à Glénat, à Paris. Et puis, ceux qui s'occupent de scanner, ils ont des scanners super haute définition et tout. Donc, parce que c'est un travail qui prend du temps, ça. Scanner 200 pages, les mettre en page, ça, c'est le travail du maquettiste. Donc, c'est vraiment beaucoup de boulot. J'ai préféré leur déléguer ce travail parce qu'ils ont le matériel et la main-d'œuvre pour le faire. Et moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour dessiner mes pages et faire mon scénario.
Du coup, vous faites les brouillons avec quel stylo ? Parce que j'ai vu, il y a certains dessinateurs qui font avec des stylos avec la mine bleue, très claire.
Alors quand tu dis brouillon, tu parles des
traits de...
Tu parles pas du storyboard, tu parles, non, du crayonné des planches.
Oui.
D'accord. Bah là, c'est au crayon de papier classique. Okay. J'ai un crayon comment dirais-je, je sais pas, il a une mine assez épaisse et il me permet de placer des formes rapidement et ensuite au critérium je repasse les formes plus précises et une fois que j'en suis satisfait je prends ma plume, mon encre et là je fais vraiment l'ancrage définitif, j'attends que ça sèche et ensuite je gomme tout et après je repasse les zones en noir et puis ma page est terminée.
Est-ce que vous pouvez vivre de votre passion?
Oui, si le but, enfin le secret entre guillemets, c'est d'enchaîner rapidement les... Si tu fais un tome par an, tu peux pas en vivre, ou alors très difficilement. Si tu fais deux tomes par an, tu peux en vivre correctement. Donc voilà, si j'avance vite, je peux en vivre. Donc j'ai pas à me plaindre puisque je n'ai que ça à faire entre guillemets.
Et ils vous payent par planche ou par mois, par nombre de planches?
C'est un forfait en fait. T'es pas payé à la planche, t'es payé au global.
D'accord.
T'es payé au global, donc un forfait, je sais pas combien ça équivaut par planche, mais voilà, on est payé au global.
C'est quoi votre plus beau souvenir de l'aventure Tintaron, entre guillemets? C'est...
Je pense... En fait, il y a plein de sentiments différents qui s'entremêlent. T'as la joie et t'as le stress, t'as plein de choses, tu vois. C'est vrai que quand j'ai appris que le projet était accepté, que j'allais signer un contrat, là, je suis tombé de ma chaise, vraiment, mais littéralement, et puis j'avais la larme à l'œil, tu vois. Et c'était un moment d'extase, mais après, tu te dis, faut travailler derrière, quoi. Parce que tu signes un contrat, d'accord, mais derrière, après, c'est là que le vrai travail commence, en fait. Donc ça, c'était un beau moment, mais après peut-être, quand j'ai découvert le quatrième tome, en fait, le dernier tome, parce que... C'est celui, en fait, il faut savoir qu'il nous envoie les tomes deux ou trois semaines avant qu'ils sortent en librairie. Donc on les découvre un peu en avant-première, tu vois. Et quand je l'ai sorti de l'enveloppe, le tome 4, c'est la première fois où j'étais vraiment, vraiment satisfait de mon travail. De la couverture jusqu'à la dernière page, Puis voilà, je découvrais ce que c'était de finir une série. Et j'avais... Du coup, j'étais assez serein, en fait. J'étais heureux et serein, apaisé en quelque sorte. Et ça, c'était un peu, tu vois, la boucle est bouclée et je trouve que c'était un très beau moment. Puis après, bah, y a les rencontres avec le public, voilà, ça reste toujours super, ça. Donc il y a plein de beaux moments, en fait. Voilà.
Quand vous dites que c'est votre premier manga, Tintaron?
Alors c'est mon premier manga édité. Avant, j'avais fait une sorte de bande dessinée mixée avec du manga qui s'appelait Central Universe, qui était en trois tomes, en auto-édition, donc une histoire complète aussi.
Ah oui, j'ai vu aussi.
Voilà. Mais sinon, mon premier manga professionnel, oui, c'est Tintaron.
Est-ce que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus sur votre nouveau manga ou vous gardez le secret?
Sur Windfighters, bah écoute, si t'es curieux, tu vas regarder sur Facebook ou Twitter ou Instagram, ça a déjà été relayé, ou tu tapes sur Google, ça commence à être relayé. Je peux dire quelques mots, et bien sûr, ce sera toujours un shonen donc de action-aventure, voilà, c'est mon domaine, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est là où je suis à l'aise, donc... Le schéma de l'histoire, il est très simple. En gros, c'est les aventuriers contre le régime étant une sorte, un équivalent de l'Empire galactique de Star Wars, tu vois. Et les aventuriers étant l'équivalent...
Des rebelles ?
Des rebelles, exactement. Voilà, t'as trouvé le mot. En gros, c'est la figure que je me suis trouvée, celle qui me convient bien, tu vois. Là, je vois que tu portes un chapeau. Il y a des personnages qui auront ce genre d'éléments sur eux, parce que ça fait très aventurier. Il y a toute une imagerie qui m'est venue en tête. Les aventuriers, ils sont libres. Et le régime, il veut soumettre le monde. Et au milieu de ça, tu as une énergie, le wind, qui veut dire vent en anglais. Mmh. Mais c'est pas vraiment du vent, parce que c'est l'énergie comme la force dans Star Wars, par exemple. Tu vois, je reprends ces schémas. J'ai pris un schéma d'histoire très, très simple, comme on disait tout à l'heure. À partir de là, on va suivre un frère et une sœur un peu spéciaux, qui s'appellent Helio et Hope, et qui vont se trouver au milieu de ce monde qu'ils ne reconnaissent pas vraiment. Et puis, bien évidemment, c'est eux qui vont engendrer... qui vont précipiter le combat en fait contre le régime, qui vont forcer les aventuriers à sortir un petit peu de leur tanière pour sauver le monde. Voilà, donc ça va toujours être plein d'action, d'humour, avec plein de personnages variés, puis ce sera dans le sens de lecture japonais cette fois-ci.
J'ai une question, est-ce que vous étiez à la Japan Expo?
Oui.
Et j'ai une autre question, est-ce que vous essayez de délivrer des messages dans vos mangas ou pas?
Bah, quand on écrit, on délivre toujours des messages. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu écris quelque chose, c'est ta conscience qui te demande d'écrire cette chose-là. Donc, ça vient de toi. Donc, il y a forcément, que tu le veuilles ou non, des messages. Moi, par exemple, mon thème de prédilection, enfin, mes deux thèmes de prédilection, c'est la liberté et la transmission. notamment la transmission père-fils, parce que ça me parle beaucoup, mais même la transmission en général, parent-enfant, maître-élève, enfin tu vois. Et donc fatalement, comme c'est mes deux thèmes de prédilection, ça veut dire quelque chose déjà. Ça veut dire qu'il est important de préserver la liberté, ça veut dire qu'il est important d'agir librement, mais pas de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il est important de transmettre des bonnes valeurs aussi. Donc tu vois, forcément, par mes thèmes de prédilection, j'envoie déjà des messages en fait. En utilisant le shonen, j'envoie forcément aussi les messages du shonen, c'est-à-dire faut se dépasser, faut toujours avoir la pêche, faut s'entraider, faut affronter toutes les difficultés. Donc tu vois, mais après il y a pas un message précis, il y a rien de politique, il y a rien de voilà, il y a rien d'intellectuel entre guillemets, c'est plus de l'instinctif quoi. J'aime aussi que les lecteurs y trouvent leur propre intérêt en fait, leur propre signification.
C'est quel personnage que vous préférez dessiner ?
Je les aime tous. Je les aime tous. Je t'avouerais par exemple que si on revient sur Tintaren, dans le tome 4, il y a un personnage qui m'a paru particulièrement jubilatoire. C'est un grand méchant. En fait, c'est l'assassin du père d'Arty. Et c'est la première fois que je dessine un vrai méchant, mais qui est genre, t'as pas envie de le rencontrer, tu vois. Et chaque case où je le dessinais, je me régalais, quoi. Je me régalais vraiment parce que c'est un mec baraqué, violent, sans scrupules, sans limites, complètement exagéré, tu vois. Sinon, évidemment, j'aime toujours dessiner les personnages principaux, type le héros, le petit mec fonceur qui prend la pose, qui est toujours, qui donne de l'énergie, parce que ça me donne moi-même de l'énergie de le dessiner, en fait. Donc voilà, puis après, j'adore dessiner les filles aussi. Les filles, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est toujours rafraîchissant, ça fait toujours du bien de dessiner les filles, surtout des filles qui se laissent pas faire, ça c'est quelque chose de super à dessiner. Puis j'adore les petits animaux, enfin, si vous connaissez un petit peu mes univers, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous voyez un petit peu mes dessins, c'est très très large, hein. J'aime bien les trucs assez loufoques aussi, donc il y a un petit côté Disney, côté Toriyama aussi, voilà, donc c'est un mélange de plein de choses.
Votre manga, maintenant que vous avez été publié, quel est votre prochain objectif ? Essayer d'être publié au Japon, comme Radiante ?
Ouais, ça ce serait génial. Ça, c'est sûr que c'est un peu
le rêve ultime de tout mangaka
français. Ouais, parce que c'est, tu te dis, ça doit être ultra kiffant. Tu vois ton livre avec les écritures japonaises dedans, ça doit avoir de la gueule, quoi. Tu vois, non, c'est sûr, toucher n'importe quel autre public, en fait. Déjà, toucher un plus grand nombre de Français, déjà, oui. C'est le premier rêve, quand même, le premier objectif. C'est-à-dire que ma prochaine série rencontre un public bien plus large, et c'est pour ça que j'ai fait en sorte de faire une histoire simple, efficace, avec des persos plus jolis entre guillemets, et des schémas plus efficaces. Et là tu vois, je suis en train de dessiner les pages actuellement et je m'éclate encore plus qu'avant, et je sens que ça coule mieux en plus en sens de lecture japonais et tout, donc j'ai l'impression de redevenir en fait, tu vois, mon premier objectif il est peut-être là, c'est de retourner à l'essentiel, de redevenir un gamin qui se prend plus la tête, parce que quand dans ta première œuvre tu te prends la tête, t'es stressé, tu vas en faire des tonnes, et puis au final tu te perds peut-être un petit peu. Là je reviens à l'essentiel, je retrouve le plaisir primaire de créer des héros qui vont affronter des méchants avec des pouvoirs magiques, et un truc fun et tout, avec des beaux décors, du voyage. Ça c'est mon premier objectif. Si de là ça permet de toucher un plus grand public, alors j'en serai très heureux, puis après plus ça ira loin, plus évidemment j'en serai heureux. Donc effectivement le Japon... c'est une sorte de Graal, quoi, mais oui. On n'en est pas encore là, faisons les choses les unes après les autres.
Et est-ce que vous pensez que les mangas français auront plus de mal à être acceptés par des Français que des mangas japonais ?
Ah bah oui, ça c'est...
Et pour quelle raison ?
C'est évident, bah parce que c'est français, tout simplement. Parce que déjà, le manga français, quand il a démarré, c'était vraiment pas au point, donc ça a collé une image plutôt négative dès le départ, il y a 10-15 ans. Malheureusement, mais c'était obligatoire parce que le manque d'expérience ou le manque de... Voilà, nous, il faut savoir qu'on travaille tout seul, on n'a pas d'assistant. Même les éditeurs sont 10 fois plus petits qu'au Japon. Même Glénat, qui est le plus gros éditeur français en manga, il est, par rapport au... quand tu vas chez eux, par rapport aux locaux japonais, par rapport aux bureaux japonais, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas du tout la même échelle. Donc forcément, on est un peu comme des artisans, on travaille dans notre coin. Et du coup, c'est un peu plus lent à sortir, il y a moins de publicité... Enfin, tu vois, on a plus de difficultés à surmonter, en fait. Un titre qui vient du Japon, d'office, il est déjà plutôt bien vu. En plus, s'il a fait ses preuves au Japon, si on te dit que ça a été un succès au Japon, exemple dernièrement, Promise Neverland ou Beastars, tu vois, avant même que tu connaisses, tu sais déjà que tu auras des milliers, voire des dizaines de milliers de lecteurs, parce que ça a marché au Japon, donc c'est bon. Et ben, nous, on a pas tout ça, alors il faut essayer de faire différemment. C'est pour ça qu'il faut que notre premier tome, ça c'est quelque chose que j'ai compris récemment, vraiment, et notamment grâce à l'expérience de Tintaren, il faut que dès notre premier tome, dès le titre et tout, il faut que ce soit clair, net, précis et percutant et puissant tout de suite. On n'a pas le droit de prendre notre temps, tu vois. Donc, du coup, ça nous force à... Il y a une exigence qui fait qu'on n'a pas le droit de perdre du temps et qu'il faut être tout de suite avec un tome 1. Il faut que tu sois équivalent dans les rayons. Tu vois, ton bouquin, il est dans les rayons. Il faut qu'il soit aussi solide, voire plus solide qu'une nouveauté japonaise, quoi. Donc, ça demande de peaufiner le scénario, ça demande...
Et la couverture aussi, je pense.
La couverture, voilà, ça, c'est aussi...
C'est pas le plus dur à faire.
C'est un exercice difficile, la couverture. C'est très difficile, parce
que... Vous la faites quand, au début ou à la fin ?
À la fin. À la fin, ouais. En fait, je l'imagine mieux quand j'ai vraiment fait toutes mes pages, parce que je vois mieux... Même si, tu vois, là, j'ai des idées en tête pour le tome 1 Wind Fighters et tout, j'ai des idées, je sais à peu près ce que je veux mettre, mais... Le résultat définitif, je le découvrirai en fait quand j'aurai vraiment fini la couleur, quoi. On peut jamais savoir complètement à l'avance. Et c'est vrai qu'une couverture, c'est un peu comme une recette de cuisine, tu vois. Tu as des ingrédients, les couleurs, tout ça, la position des personnages, la composition, le titre, l'aspect du titre, où est-ce qu'il est placé, etc. Il y a tout un tas de choses qui font que le moindre réglage un peu de travers et ta couverture, elle peut perdre en efficacité et du coup, derrière, les conséquences, voilà. Mais par exemple, tu vois, au Japon, ils n'ont pas forcément... Même si la couverture est très importante, ce n'est pas aussi fondamental que chez nous. Genre, tu regardes les couvertures de... Tu regardes les couvertures, je sais pas, de Dragon Ball, de Naruto et tout. Alors, celles de One Piece, elles sont plutôt foisonnantes, elles sont très colorées et tout. Mais tu as plein de couvertures, c'est genre, on en a un peu rien à foutre, quoi.
Mais pourtant, ça marche.
Et ça marche parce que ça a fait ses preuves au Japon, c'est
oui,
ça le truc.
Et puis aussi, la différence, c'est qu'eux, ils sont publiés dans des magazines.
Et ben voilà, c'est pour ça.
Exactement. Faudrait peut-être créer un magazine français pour. Mais ça marcherait pas.
Pas possible.
C'est ça le truc.
T'as déjà la réponse à ta question. Il n'y a pas assez de lecteurs en France, il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez d'argent pour porter un magazine. Il y a eu des tentatives, mais.
Comme lesquelles ?
Je crois qu'il y a un magazine qui s'appelait Shogun, il me semble, il y a 15 ans, 10 ou 15 ans. Il y a des webcomics, tu vois, il y a des publications sur internet et tout, mais même le modèle économique pour les auteurs, il est pas viable. Nous, ce qui est viable pour nous, c'est de signer pour faire un bouquin, un tome complet, et c'est aussi ça. Et du coup, c'est forcément plus risqué parce que ton histoire, les gens vont la découvrir avec un tome imprimé en librairie qui a coûté plus cher à imprimer que si on avait testé ton histoire dans des magazines, tu vois. Si on teste dans des magazines, qu'on voit ça passe pas trop, on peut arrêter à moindre frais. Mais quand c'est déjà une série qui est publiée, qui est lancée partout en France, dans toutes les librairies et tout, tu vois, c'est complètement différent en fait. D'où l'importance, je le redis, de réussir à être nickel ou quasiment nickel, parce qu'on n'est jamais nickel, mais d'être vraiment bon dès le premier tome. Et ça s'apprend au fur et à mesure.
Est-ce que avant vous publiez dans Manga Draft, qui est l'équivalent de Wattpad ?
Non, j'ai jamais fait. Non. Je vois ce que c'est, parce que je voulais être, je veux être, c'est bête à dire, mais je veux être payé pour mon travail, tu vois. C'est quand tu deviens professionnel, t'as quand même une maison, une famille et tout. Si tu passes ton temps à dessiner pour publier sur internet gratuitement, ça va bien quand t'as 15 ou 20 ans. Mais après, quand tu veux te professionnaliser, non, faut passer à la vitesse supérieure, faut se mettre un coup de pied aux fesses et puis. Et puis voilà quoi, c'est non, je voulais être en édition classique, donc je me suis donné les moyens pour, ce qui fait que ça ne me laisse pas de temps pour publier mes planches sur internet.
D'accord.
Bah merci hein, en tout cas.
Bah, de rien. Merci pour vos questions.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous les garçons. On se retrouve pour une autre émission après une pause musicale. Home Cooking, Richard Holmes, Groovin' for Mr. J.